VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président déchu Omar El-Béchi, qui a dirigé le Soudan durant 3 décennies, est arrivé aujourd'hui devant un tribunal de Khartoum où il doit être jugé pour corruption. L'ex-chef d'État déposé par l'armée le 11 avril, en réponse à des manifestations massives, est arrivé en matinée, escorté par un imposant convoi militaire. Son procès devait s'ouvrir samedi, mais il avait été reporté sine die. Et le Soudan s'est engagé hier dimanche concrètement dans sa phase de transition vers un pouvoir civil qu'il espère apaiser avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation. Thomas Kamelindi.
Samedi, des foules en liesse ont rempli les rues de Khartoum après la signature de l'accord. Ce compromis entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation prévoit une transition de 39 mois qui doit être menée par un Conseil souverain composé de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de nombreux dignitaires étrangers, le plus grand événement à être organisé depuis des années dans la capitale soudanaise. Plusieurs pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un nouveau Soudan après les 30 ans de pouvoir d'Omar El-Béchir. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis que Washington soutiendrait l'établissement d'un gouvernement qui protège les droits de tous les Soudanais et mène vers des élections libres et équitables. Pour l'analyste soudanais Abdelatif Al-Bouni, le plus grand risque dans l'immédiat pour la transition est la volonté de se venger de certains. Plusieurs étapes précéderont les élections prévues en 2022. Le gouvernement doit, lui, être formé le 28 août avec 20 membres au maximum pour permettre aux nouvelles institutions d'affronter les principaux défis du pays, en priorité la relance d'une économie en crise.
L'armée et la police ont été déployées en force aujourd'hui à Bulawayo, deuxième ville du Zimbabwe, quelques jours après la répression brutale d'une manifestation semblable à Harare. La police zimbabwéenne a interdit la veille la marche prévue par le mouvement pour le changement démocratique, MDC, à Bulawayo, pour protester contre la détérioration des conditions économiques. Le MDC a saisi la justice pour contester cette décision. La police avait déjà interdit des protestations la semaine dernière à Harare, après que le MDC eut appelé à une série de manifestations dans la capitale contre la gestion de l'économie par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa. 100 en République démocratique du Congo, il y a eu des avancées prometteuses dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, avec de nouvelles techniques pour l'hospitalisation et l'isolement des malades et de nouveaux médicaments. Mais les traitements ne sont vraiment efficaces que si les patients sont pris en charge suffisamment tôt après l'apparition des premiers symptômes. Et l'épidémie continue de se propager en RDC. Elle a déjà fait plus de 1900 morts. Reportage à Beni de notre correspondante Patricia Ouyon.
Il y a une patiente à l'intérieur. Ça fait 6 jours qu'elle est là. On peut la voir même de l'extérieur, là. Cliniquement, elle va mieux. C'est pas comme à l'entrée.
À Béni, le centre de traitement Ebola peut accueillir une 60aine de patients. 13 chambres d'urgence biosécurisées sont utilisées pour la première fois dans cette épidémie. Il s'agit de cubes de plastique qui permettent d'observer le patient de l'extérieur, de lui parler et même d'effectuer certains soins sans devoir entrer dans la pièce avec un équipement complet de protection. Cela permet aux proches d'apercevoir le patient et au personnel soignant d'être plus efficace, explique le docteur sympathique Kayani.
On peut suivre son état général de l'extérieur par le moniteur et aussi par la paroi plastique. Si par exemple je veux changer une perfusion, j'introduis mes mains, mes bras à l'intérieur de 2 gants. On ne va pas porter toute une combinaison. Si les patients peuvent parler, ils peuvent dialoguer avec leurs familiers et ils le voient de l'extérieur. Ça rassure un peu le patient.
Des systèmes de réanimation et de nouveaux médicaments sont utilisés. Un essai clinique a été mené dans le centre de traitement Ebola de Beni. Il suggère que les patients traités avec 2 des molécules pourraient avoir jusqu'à 90% de chances de survie s'ils sont pris en charge rapidement. Le docteur Modé Camara de l'ONG Alima a coordonné l'étude sur place.
En Afrique de l'Ouest, on n'avait pas ce tableau. cet appareillage, et ce qui permet d'avoir une visibilité directe sur le malade. Ce sont des soins intensifs. La mortalité avec le virus Ebola sans traitement spécifique était élevée. Mais maintenant, avec les médicaments, nous nous retrouvons avec un taux en deçà de 30%. Le premier, c'est un anticorps monoclonal issu d'un le sérum d'un survivant. Et le second, c'est encore des anticorps monoclonaux qui est très efficace sur le virus Ebola.
Le taux de guérison au centre de traitement est désormais de 60 à 70%. Aujourd'hui, 14 patients, hommes, femmes, enfants et un bébé, sont déchargés. Ils ont vaincu la maladie. Certains sourient et lèvent les bras en signe de victoire. D'autres semblent confus, inquiets. Pour beaucoup de survivants, le retour dans leur communauté est accompagné de stigmatisation.
Dans la communauté, on ne croit pas vraiment qu'une personne peut guérir d'Ebola. C'est un certificat de décharge pour dire que je suis guéri. On dit à la date d'émission de ces documents, les porteurs de ce certificat ne présentent pas de risque de contaminer d'autres personnes parce que ce test a été négatif pour la maladie à virus d'Ebola.
Même si les traitements s'améliorent, la méfiance et les rumeurs persistent. Beaucoup de personnes craignent de se rendre au centre de traitement. Le nombre de malades qui meurent chez eux reste important et la chaîne de transmission se poursuit. À Béni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Le navire humanitaire Océan Viking n'a pas encore trouvé, lui, un port sûr pour débarquer. 356 migrants secourus pour le premier il y a 10 jours. En attendant, ces migrants ont été invités à dessiner d'un trait de crayon et quelques couleurs. Ils ont consigné leur pire cauchemar et leur meilleur souvenir. Eric Manirakiza.
Les dessins accrochés sur le pont de l'Océan Viking racontent les vies malmenées des migrants. Des coups en Libye, la guerre au Darfour, mais aussi le village familial dans le sud du Soudan, un chanteur pop et le baobab emblématique du Sénégal et des bateaux salvateurs. Haroun Mohamed détaille ces images. Le Darfour en feu qu'il a quitté en 2011 pour gagner Khartoum puis la Libye, les avions qui pilonnent sa maison, le toit en flammes, la famille qui s'enfuit. Le croquis d'Adam, 18 ans, qui rêve avec sa haute stature de devenir footballeur professionnel, montre un petit bonhomme accroché au plafond, pieds et poignets liés, tandis que deux hommes le frappent à toute volée devant d'autres prisonniers alignés. Al-Hadin a reproduit une carte de Libye rouge sans barrer des lettres « Hell », l'enfer. « By Hell », sourit-il en faisant le V de la victoire. Ezo préfère se souvenir des belles choses, son village bucolique dans le sud du Soudan, au bord d'un lac où il a appris à nager, non loin des monts Nouba, les pêcheurs, sa grand-mère, la cruche sur la tête, les vaches. Les dessins racontent aussi leur sauvetage et leur arrivée sur le grand bateau rouge. Ils montrent également des mères qui accueillent leurs enfants, des images qui trahissent le mal du pays, la nostalgie de l'enfance et du temps de l'insouciance.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À l'étranger, Damas a dénoncé lundi l'envoi par la Turquie d'un convoi militaire chargé de munitions dans le sud de la province d'Idleb au lendemain de l'entrée des troupes pro-régime dans la ville clé de Khan Cheikhoun. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, des raids russes et syriens ont été menés non loin du convoi pour l'empêcher de poursuivre son chemin. L'arrivée de ce convoi intervient au lendemain de l'entrée des forces du régime de Bachar al-Assad dans la ville de Khan Cheikhoun pour la première fois depuis 2014, après plusieurs jours de progression sur le terrain aux dépens des djihadistes et de quelques groupes rebelles soutenus par Ankara. Et puis Hong Kong se prépare à davantage de manifestations cette semaine après un week-end de mobilisation où plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé sous la pluie et dans le calme, bien loin des scènes de violence qui ont souvent marqué les précédentes manifestations. Dimanche, 1,7 million de personnes étaient dans les rues de Hong Kong. Selon les organisateurs du rassemblement, la police en a, elle, dénombré 128 000 au parc Victoria, point de départ du défilé au plus fort de la mobilisation. Pékin a adopté un ton de plus en plus ferme à l'égard des manifestations, allant même jusqu'à accuser des pays étrangers, notamment les États-Unis, d'ingérence. Donald Trump, le président américain, a laissé entendre dimanche que la Maison-Blanche aimerait d'abord voir Pékin trouver une solution à cette crise avant que les deux pays ne parviennent à un accord commercial. Le prochain journal vous sera présenté par Henri Francis, qui c'est dans 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.